Mademoiselle, mesdames, messieurs, rebonsoir, parce que pour la plupart d'entre vous, on s'est déjà rencontrés. Eh bien, en accueillant Christophe Larivière autour de la photographie, je suis ravie d'accueillir Yves-Pierre Frugier ce soir pour un cycle, on en discute à la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Loué, sur les druides ou les clés du mystère celte. Fait partie des grandes énigmes jamais résolues, je ne sais pas, peut-être ce soir, Yves-Pierre, vous allez nous lever le voile sur tout cela. Yves-Pierre est professeur d'anglais scientifique à l'université de Lille 1. Il est auteur d'un cours d'approche interculturelle du Royaume-Uni, très passionné par le Royaume-Uni. Et il aborde, dans le cadre de ses cours avec ses étudiants, le thème des mythes fondateurs de la culture celte. Des mythes à la fois communs aux peuples de part et d'autre de la Manche, donc peuples dont nous sommes ensemble. Mais bien sûr avec des identités bien, bien différentes. Il paraît que les druides ont un triple rôle. Trois rôles différents, un triple rôle, vous allez nous expliquer tout ça. Passionné par le monde celte, il déclare « La clé de cette civilisation, je cite, est le druide dans son rôle triple qui demeure pour tous les socio-ethnologues l'image de la loi d'organisation de vie commune propre aux Indo-Européens. Il est prêt à vous faire partager des visions autant historiques que mythiques sur le sujet. » Merci à vous et je vous souhaite une bonne conférence.
Bien, merci de m'accueillir. Et puis, nous allons essayer de lever le mystère. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, pour qu'il n'y ait plus trop de mystère entre nous, disons-le tout de suite, le mystère celte tient au fait que, sous le nom de Celtes, nous regroupons des peuples qui, pour être divers, n'en ont pas moins partagé la même langue, la même religion, et qu'ils ont habité un territoire s'étendant de l'actuelle Hongrie et d'une moitié de l'Espagne à l'actuelle Écosse, sans pour autant jamais constituer d'empire, ni même de nation. Si être celte n'a jamais correspondu à une identité nationale, le fait d'être celte a par contre dû correspondre à un esprit. Et nous allons voir ensemble en quoi cet esprit de peuple, inimaginable aujourd'hui hors des limites patriotiques ou politico-économiques, a pour rôle essentiel le druidisme. Ce n'est donc pas dans sa dimension historique que nous approcherons aujourd'hui le phénomène druidique, mais dans son aspect culturel. Le druidisme est une culture à part entière qui s'inscrit dans un schéma indo-européen et dont l'esprit a perduré au travers de visions sociétales encore défendues de nos jours. Les Celtes méritent effectivement aujourd'hui qu'on leur reconnaisse une civilisation et qu'on les sorte des vues biaisées énoncées par les Grecs et les Romains, qui les disaient barbares. Cette première correction étant faite, corrigeons d'autres erreurs qui ont pourtant la vie dure dans la mémoire de nos contemporains, et notamment l'erreur de chronologie. Nous savons certes que la très célèbre bande dessinée de Uderzo et de Goscinny manie l'anachronisme comme élément quasi essentiel de son humour. Mais celui-ci est de taille. Comme le personnage d'ailleurs. Obélix, vêtu de braies à rayures, est un Gaulois de l'époque gallo-romaine des 50 dernières années du siècle précédant notre ère. Alors que le menhir qu'il livre est pour sa part issu d'une époque qui est bien plus éloigné de lui que nous ne le sommes. Le menhir en question pourrait bien dater du 7e millénaire avant notre ère, si ce n'est du 10e, comme ceux que l'on trouve d'ailleurs pas loin d'ici, à Lambre-les-Douées. Quant au splendide monument de Stonehenge, qui illustre l'invitation à cette soirée, il n'est pas non plus une œuvre des Celtes, qui l'ont trouvé tout construit, puisque son édification les a précédés d'au moins quelques 500 ans. Néanmoins, nous verrons que les druides ont probablement pu et su exploiter ce legs de leurs ancêtres. C'est à Merlin, immortalisé sous les traits de l'enchanteur, que la légende attribue la construction de Stonehenge. Merlin le druide, sans qui le mythique roi Arthur, unificateur des Bretons d'outre-Manche, ne pouvait prendre aucune décision. À l'inverse du roi Arthur, le chef Arverne Vercingétorix a vraisemblablement existé. Moins heureux qu'Arthur, son combat contre les envahisseurs romains n'aura duré que quelques 10 ou 12 mois contre 2 siècles de l'autre côté de la Manche. Précisons que Vercingétorix était bien Arverne, mais qu'il ne savait pas qu'il était gaulois. Car la Gaule est le nom que les Romains ont donné au territoire qu'ils entendaient conquérir et qu'habitaient pas moins d'une 12aine de peuples. Il était Arverne et Celte. Tant que ces peuples organisèrent leur résistance contre l'envahisseur sous la forme d'attaques de partisans, de guérillas contre l'occupant, l'armée de Jules César fit face à de multiples batailles plutôt rudes. Ce sera la stratégie de Vercingétorix que de réunir les tribus gauloises en leur faisant partager une haine commune contre l'envahisseur, mais elle conduira à le laisser se faire entraîner dans un combat frontal, opposant en 52 avant Jésus-Christ des francs-tireurs à une armée idéalement organisée, combat évidemment perdu d'avance. Les Gaulois, réputés pour leur tempérament de bagarreur et leur indiscipline, mais tout autant connus comme résistants à l'envahisseur, mais aussi comme bons agriculteurs et bons artisans, sont non seulement une image des Français ancrée dans la mémoire collective de notre pays, mais aussi l'image qu'ils conservent à l'étranger. Nos ancêtres, les Gaulois, sera la première phrase que la Troisième République fera apprendre aux enfants des écoles primaires de France. Même s'ils habitent l'île de la Réunion, ou si leurs parents sont arrivés de Pologne ou d'Afrique du Nord. Et c'est aussi la Gauloise qui sera intégrée dans la solde et que fumeront nos soldats. La cigarette, symbole du courage légendaire des ancêtres et de la résistance contre l'envahisseur. Dans notre pays, qui porte le nom des Francs, et donc des envahisseurs germains dont les ancêtres ont aidé les Romains à mettre fin définitivement à la civilisation celtique en Gaule, l'histoire, le mythe et la légende sont parfois inextricablement liés dans les esprits, en dépit des paradoxes flagrants qu'ils présentent. Les Gaulois ont donc servi l'idée de patrie, sans pour autant n'en avoir jamais eu la moindre notion. En fait, le Celte n'a jamais été patriote que pour perdre la guerre. S'il existe un patriotisme, il n'existe pas de celtisme. L'idée que se font les Celtes de la souveraineté n'a jamais rien eu de national, ni d'expansionniste, à l'inverse de leurs très proches voisins, les Germains et les Romains. Il faut donc corriger de nos jours une autre vérité qui n'aurait jamais dû être autre chose qu'une hypothèse et qui faisait des Celtes un peuple venu d'ailleurs, du Danube par exemple, ou encore d'Anatolie ou d'Asie mineure, et qui aurait conquis ou envahi des contrées occidentales dont la nôtre fait partie. Cette vision ne tient pas ou ne tient plus devant les résultats fournis par les archéologies classiques et linguistique. À l'archéologie classique, que devons-nous ? Nous devons, par la datation au carbone 14 par exemple, la correction de la confusion entre ce qui fut néolithique, celtique et gallo-romain. Mais nous devons aussi aux fouilles archéologiques la prise de conscience du fait que les populations de l'âge du fer, que nous reconnaissons comme celtes, ne sont pas d'une origine ethnique unique, ce qui part en brèche l'hypothèse d'une population unique d'envahisseurs. En effet, les ossements datés de l'âge du fer révèlent des conformations diverses qui ne sont pas cohérentes entre elles d'une région à l'autre, mais qui présentent, au contraire, des caractéristiques communes avec les ossements des ères précédentes retrouvés sur les mêmes lieux. La conclusion à tirer est donc que les Celtes sont tout simplement les descendants des populations néolithiques des mêmes contrées, et ce, dans leur diversité originale, ou presque. L'archéologie linguistique contribue elle aussi pour sa part à comprendre ce que furent les Celtes. Cette science consiste à comparer des éléments phoniques entre plusieurs langues et donc à rompre avec l'habitude de prendre l'écrit pour référence. Un même phonème, une même syllabe signifiante par le son qu'elle produit, voire un même mot, peuvent en effet s'écrire de façon différente selon les lieux. Les étymologies décrétées latines, depuis les travaux des moines et des clercs de l'Église romaine, seraient donc parfois à revoir. À l'archéologie linguistique, nous devons des révélations qui vont dans le même sens que celles provenant de l'étude des ossements humains trouvés dans les sépultures de l'ère celtique. En effet, les lointaines racines des mots que nous parvenons à reconstituer révèlent des évolutions locales de phonèmes souches que l'on retrouve dans l'ensemble du monde indo-européen. Ces similitudes de mots montrent que ces peuples, quoique divers, utilisaient une langue commune à toutes les régions celtiques, quelles qu'aient été les variantes dialectales locales encore constatables aujourd'hui. De nos jours encore, un gallois peut comprendre un écossais ou un irlandais, et même un breton, mais seulement lorsqu'ils se parlent, car ils ont des façons différentes de symboliser les sons à l'écrit. Une même langue, un même esprit, les Grecs et les Romains ne s'y étaient pas trompés. Il existait bien, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté nord de la Méditerranée, des gens qui constituaient un même peuple et que les uns nommaient Keltoi et les autres Keltai, car ces gens se nommaient eux-mêmes Celtes, et que l'on considérait bien sûr comme barbares. Ces gens intriguaient déjà, comme ils intriguent encore, car ils parlaient la même langue, tout en étant issus d'ethnies diverses et en défendant vigoureusement leurs identités de tribu. L'unité de langue, autant que l'unité de religion, qui est le cas des Celtes, quels que soient les particularismes locaux, est un fait unique dans l'histoire connue des peuples, et nous force à cette réflexion sur ce qui a pu constituer ou ordonner leur société, et traduire l'idée de souveraineté qui était la leur. Il nous faut nous rendre à l'évidence que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'identité nationale ni de souveraineté nationale qu'il n'y a pas de notion de souveraineté culturelle. Une souveraineté d'esprit a pu unir des peuples de façon durable, mais cette notion était complètement étrangère aux contemporains des Celtes, des Grecs, des Romains ou des Germains, qui ne voyaient leur force que dans l'expansionnisme et la soumission des peuples voisins. C'est néanmoins grâce aux Grecs et aux Romains que nous disposons d'informations sur ces peuples celtes, qu'ils considéraient comme barbares, certes, parce que culturellement différents. Les Celtes, pourtant, étaient réputés pour leur savoir-faire en matière d'artisanat, et notamment du travail des métaux. Mais ils n'écrivaient pas. Effectivement, les Celtes ne se servaient pas de l'écriture. La langue celte ne s'écrivait pas, je l'ai expliqué tout à l'heure, par écrit, ils ne se seraient pas compris. Nous ne disposons donc d'aucun document écrit que les Celtes aient produit eux-mêmes. Cela dit, si l'écriture n'était pas un moyen de communication entre les Celtes eux-mêmes, les historiens grecs et romains précisent que les druides correspondaient avec eux dans l'une ou l'autre de leurs deux langues et qu'ils savaient donc pertinemment écrire. Certes, me direz-vous, il y a les ogames. Ce sont effectivement des signes celtes que l'on a découverts gravés sur quelques pierres tombales. Ils semblent assez tardifs dans l'histoire, 7e siècle après Jésus-Christ, tout au moins pour ce qu'on en a retrouvé, et ne concernent vraisemblablement que des messages votifs ou funéraires. Il s'agit, un peu comme dans les runes des peuples germaniques, de signes quasi hiéroglyphiques qui font penser à des idéogrammes. Il s'agit sans doute d'un alphabet symbolique, à comparer à celui des chrétiens qui produit le chrisme chrétien, par exemple, mais il ne s'agissait de toute évidence pas d'un alphabet transcrivant une langue celte ordinaire. Alors, me direz-vous, si nous n'avons aucun témoignage écrit, comment pouvons-nous décider de la transition entre les peuples qualifiés de néolithiques et les peuples qualifiés de celtes ? Eh bien, la réponse est cette fois tout à fait politico-économique. C'est au cours du dernier millénaire du néolithique, avec l'avènement de l'âge du bronze, que s'est progressivement opérée la mutation. Les peuples vivant de cueillette étaient, nourriture oblige, des peuples nomades qui avaient depuis longtemps appris l'élevage en emportant avec eux dans leur pérégrination les troupeaux de moutons, par exemple. La découverte des métaux, et notamment de l'alliage du cuivre et de l'étain, leur a permis de fabriquer des outils suffisamment performants pour travailler la terre et donc cultiver. L'agriculture les a donc ainsi peu à peu rendus plus sédentaires. La découverte du travail du fer, qui demeure, si l'on en croit César, à l'apanage des Celtes, qui se montraient particulièrement compétents dans l'art, n'a pu bien entendu que renforcer cette tendance en rendant possible la fabrication d'outils encore plus performants, un labour plus profond et une productivité locale plus aisément pérennisée. Voilà pour la justification technologique de l'évolution. Toutefois, une évolution vers le sédentarisme se double immanquablement d'une amélioration du confort de vie, ne serait-ce que par le fait de construire des habitations moins précaires, et la conséquence en est un accroissement de la population, désormais plus apte à élever des familles plus nombreuses. Cette évolution, si l'accroissement de la richesse n'accompagne pas le besoin en moyens, aurait pu être vouée à l'échec ou à un développement mineur. Si l'évolution, nous la pensons donc interne au peuple de la zone qui fut celle des Celtes, c'est par contre à ce tournant de l'évolution que se mêle un phénomène extérieur et qui est le phénomène du commerce. Le minerai à disposition au nord des Alpes et l'art de le travailler, acquis par les populations, habitants et régions, se vend cher à ceux qui en manquent, bien sûr, et que le désir de progresser technologiquement tenaille. On aurait pu donc imaginer que les peuples que l'on sait civilisés soient entrés en lutte contre les détenteurs de ces nouvelles richesses. Mais l'aube du premier millénaire avant notre ère constitue aussi un tournant majeur au niveau historique. Jusque-là, en effet, la Méditerranée, dans sa partie orientale, était contrôlée par trois puissances stables, représentées par l'Égypte, l'Empire hittite et la Grèce mycénienne. L'Empire hittite s'effondre en moins 1200. La Grèce abandonne les cités autrefois prospères de Mycène et de Tirynthe. Alors, à cette époque où les progrès technologiques accroissent le besoin en minerais, notamment en cuivre et en étain, dont les populations du domaine nord-alpin sont riches, si l'on n'est plus en force pour attaquer et soumettre, si l'on n'est plus un peuple suffisamment uni et riche pour être capable de lever une armée et de conquérir, eh bien, on devient acheteur, et en l'occurrence, on enrichit les Celtes. Voilà les motifs matériels qui vont de toute évidence amener notre civilisation celte ou la renforcer par mutation progressive à partir des organisations néolithiques. Mais, me direz-vous, nous sommes venus vous écouter sur les druides. Eh bien, nous y voici. Imaginons des populations se sédentariser, s'installer autour de richesses locales, autour de terres fertiles ou de zones riches en minerais. Si le nomadisme ne requiert pas une grande organisation dans la mesure où les tribus sont restreintes en effectifs et mobiles, il n'en va certes pas de même dès lors qu'elles choisissent de partager un lieu commun de vie. La naissance des Celtes est donc liée à la naissance des sociétés. Et qui dit société dit ordre social, ce qui implique non seulement une volonté de le respecter, mais aussi une nécessité de le faire respecter. Tout comme il est nécessaire de faire exploiter les richesses convenablement pour que la communauté en vive, sans oublier que les biens acquis doivent être défendus contre les éventuels voisins qui pourraient se montrer trop envieux. On imagine dès lors qu'une règle de vie se met en place et que le pouvoir... Oui, j'y suis, c'est parfait. On imagine dès lors qu'une règle de vie se met en place et que le pouvoir de le maintenir se concrétise par la présence d'un chef. On imagine que certains cultivent ou mettent en œuvre leur art pendant que d'autres s'exercent au maniement des armes ou des stratégies de défense. Mais qui ou qu'est-ce qui fera que ces missions différentes respectent la cohésion de la communauté et donc le but commun de survie et de vie? Qui sera responsable du maintien de l'ordre social? Un militaire? Un producteur? Ces questions qui nous semblent parfaitement naturelles, même si elles ne sont pas toujours facilement résolues dans nos sociétés modernes, relève d'une vision de la société dont Georges Dumézil, dans les années déjà en 40 et 50, a montré qu'elles étaient communes aux peuples qui vivaient sur des contrées s'étendant de l'Inde à l'Ouest européen, peuples qui ont ainsi été nommés indo-européens. Les indo-européens, en plus de disposer de racines linguistiques communes, conçoivent en effet l'organisation sociale selon ce que l'on appelle la tripartition. C'est parti, madame la directrice, pour le triple, et nous n'en avons pas fini. Tripartition, autrement dit, la répartition des missions essentielles à la collectivité entre trois classes. Nous avons déjà nommé les producteurs et les guerriers. Il nous manquait la troisième, qui assure la cohésion entre les deux autres, mais aussi qui entretient la communauté d'esprit nécessaire au vivre ensemble. Communauté d'esprit qui passe par des considérations qui doivent nécessairement se situer au-delà du seul quotidien, en englobant le passé commun qui est identitaire et l'au-delà du présent qui ouvre sur l'avenir, l'espérance et la gestion de l'après, après la vie comme après la mort, ce qui revient après tout au même. Cet au-delà du quotidien qui définit le présent commun, c'est bien entendu l'aspect religieux. La troisième classe est la classe sacerdotale, et chez les Celtes, la classe sacerdotale est celle des druides. Ce principe de pensée ternaire crée un ordre qui détermine toute l'organisation, toute la construction cosmique, aussi bien l'agencement de la société humaine et divine que les ressorts, les mécanismes qui en règlent le fonctionnement. Cette culture de la tripartition est en tout propre aux Indo-Européens. Lorsqu'ils ne l'ont pas exportée ou imposée, les populations avec lesquelles ils ont été en relation ne l'ont pas inventée. Elle n'existe pas dans les brillantes civilisations sémitiques de la Mésopotamie. On la cherche en vain dans la Bible. Elle n'est pas davantage présente chez un peuple aussi raffiné que celui des Chinois, dont la tradition repose avant tout sur des dyades, c'est-à-dire sur des oppositions binaires. Alors, les druides, qui doivent constituer cette classe sacerdotale de sages, n'auraient-ils rien inventé? Cette tripartition ne leur serait-elle pas caractéristique? J'ai oublié de vous montrer cette diapo qui peut-être vous aurait éclairé sur la tripartition, mais nous en verrons d'autres exemples. Donc cette tripartition ne leur serait-elle pas caractéristique, dans la mesure même où elle leur a par ailleurs survécu, notamment au Moyen-Âge, en témoigne ce blason d'une abbaye montrant les trois fonctions réunies lors de la création d'un village. Nous sommes ici juste à la fin de l'époque que l'on peut encore considérer comme celtique, c'est-à-dire dans les années 400 ou 500. Les druides ne seraient-ils qu'un genre de chaman que l'on suppose avoir existé chez les peuples du Néolithique et qui mettaient en œuvre le culte de la déesse mère? Ne seraient-ils que les équivalents des flamines, ces prêtres qui officiaient à Rome? Seraient-ils enfin les frères jumeaux des brahmanes que l'on trouve en Inde? Eh bien non. Ils sont à la fois semblables à ces autres représentants de la fonction sacerdotale et radicalement différents par la place qu'il a leur dans la société celtique. En effet, les druides ne font pas partie d'une caste, comme c'est le cas en Inde, mais d'une des classes de la société. Encore faut-il ne pas entendre le terme de classe, bien sûr, tel que nous le concevons généralement. Il ne s'agit en rien, chez les Celtes, d'une organisation hiérarchique. Le terme de fonction serait plus adapté. L'organisation sociale des Celtes est une organisation trifonctionnelle, ou tripartite. Elle est une certaine manière de penser, une certaine manière de concevoir, est organisée par trois. Donc, au sein même des peuples que l'on regroupe sous la dénomination d'indo-européens, la particularité des Celtes consiste à disposer de druides. César nous dit d'ailleurs, par exemple, dans la guerre des Gaules, que les Germains diffèrent beaucoup de la coutume gauloise, car ils n'ont pas de druides qui s'occupent des choses de la religion et veillent au sacrifice. La clé chez les Celtes, c'est non pas la dyade, mais la triade. Comprendre les druides, c'est comprendre que leur fonction est celle de faire vivre cet ordre ternaire, c'est-à-dire d'entretenir l'équilibre et l'osmose entre les trois fonctions jugées comme essentielles à la vie en communauté. Fonctions qui sont non seulement définies au niveau des humains, mais qui ont aussi leur correspondance dans le monde du divin, que les Celtes nomment l'autre monde. Les druides sont à la fois dans le temporel et l'éternel, au cœur d'une civilisation qui n'a pas inventé de différence entre le naturel et le surnaturel, et qui ne connaît pas de séparation entre le profane et le sacré. Pas de séparation telle que les Grecs et les Romains l'ont pensé, et à leur suite, la chrétienté. Lisons ce que Jules César nous dit toujours dans la guerre des Gaules. Dans toute la Gaule, on honore particulièrement deux classes d'hommes. De ces deux classes, l'une est celle des druides, l'autre celle des équites. Les premiers veillent aux choses divines, s'occupent des sacrifices publics ou privés, réglementent ce qui concerne la religion. Un grand nombre de jeunes gens viennent s'instruire chez eux et ils bénéficient d'une grande considération. En effet, ce sont eux qui tranchent tous les différends, publics ou privés. Et lorsqu'un crime a été commis, quand il y a eu meurtre, quand il y a contestation au sujet d'un héritage ou de limite, ce sont eux qui évaluent les dommages et les peines. Évidemment, Jules César ne prend pas la peine de mentionner la troisième classe, dans la mesure où, à l'inverse de ce qui se passe chez les Celtes, dans l'Empire romain, comme aujourd'hui dans nos sociétés qui ont hérité de son modèle, la classe des producteurs est reléguée au rang des esclaves ou presque. On notera qu'elle nomme la classe des guerriers comme celle des équites, c'est-à-dire des chevaliers, tant il est de notoriété générale que les Celtes sont des cavaliers entraînés et redoutables. De son témoignage, nous déduisons que les druides bénéficient d'une grande considération, qu'ils sont prêtres, enseignants, mais qu'ils exercent aussi la justice. Leur fonction est triple, une autre triade. Mais que signifie le mot druide? Drou est un préfixe augmentatif. Drou signifierait donc quelque chose comme très. Et wid signifie savant. Le druide est donc le très savant, et reconnu comme tel. La grande considération dont le druide bénéficie est due à son mérite, et non pas à sa descendance ou à quoi que ce soit d'autre. Le nom donné chez les Celtes est le nom mérité. Le druide est l'exemple du sage. Pour définir la place du druide, il nous faut maintenant aborder l'idée que se faisaient les Celtes de la souveraineté et la façon dont s'organisaient entre elles les unités constitutives de la société. Nous retrouvons ici encore le ternaire ou la triade qui est la loi d'ordre de cette civilisation. Comme si l'organisation sociale des Celtes dérivait directement de l'époque où ces peuples étaient nomades, l'unité de base de la société était et demeurera pendant 2000 ans la famille. Celle-ci ne comprenait pas que les parents et leurs enfants, mais en règle générale comportait trois générations. On la nommait Finé. La filiation, rappelons-le, est chez eux matrilinéaire, ce qui fait que le chef de famille n'est pas nécessairement le père, et peut-être la mère, ou souvent l'oncle maternel, sauf si l'ensemble de la Finée décide d'élire un autre membre plus digne de maintenir la tradition, ce qui est considéré comme essentiel. La famille étant nécessairement liée à d'autres familles de par les alliances ou les mariages, la famille étendue finit par constituer un village de trois familles. Donc, typiquement, trois familles constituent un village. L'un des trois chefs de famille ou un autre membre de la communauté est alors choisi et donc élu, selon ses mérites reconnus, comme le roi du village. Si l'un des chefs de famille devient roi, il est remplacé par une autre personne à la tête de la famille en question. Poursuivons l'approche de la loi ternaire et son admirable logique. Trois villages constituent un canton. Les trois rois de village élisent entre eux le roi du canton. Il sera doublé d'un druide de canton qui, pour sa part, est autre que l'un des trois druides de village. Ainsi de suite, nous en arrivons à la tribu au sein de laquelle cette évolution se produit. Une tribu, c'est beaucoup de monde. Pour évaluer l'importance d'une tribu, rappelons-nous que la Gaule en comptait 12 environ. Le responsable exécutif de la société celte, que nous nommons donc le roi, est nommé en celte le Ri, chez les Irlandais, ou le Rix, chez les Gaulois. Mais le mot désigne à la fois le roi et la contrée qu'il administre et qu'il représente. Ri signifie donc aussi l'ensemble des habitants du royaume qui sont ses administrés. Nous avons déjà évoqué le fait que toute notion de patriotisme et donc de patrie était étrangère aux Celtes. Il en est de même de la notion de patrimoine matériel. Le roi celte représente ses administrés et non un terroir. Être celte procède d'un état d'esprit, et non d'un avoir. Le roi, comme le druide, détient son statut de son mérite, de son aptitude à susciter, à protéger et à faire valoir le savoir-faire de ses administrés qui vivent de ses vertus mises en œuvre. Il est roi tant qu'il est capable de maintenir l'équilibre entre les trois fonctions, en répartissant au mieux les richesses, en redistribuant au mieux les contributions de chaque unité de façon à ce que les trois fonctions demeurent d'une égale efficacité. Mais, en tant que représentant de l'exécutif, il n'exécute et n'ordonne que les décisions prises par le druide. Le druide est le personnage qui gère le temporel en fonction de l'atemporel. Il fait que l'éphémère s'inscrit dans le permanent, et que le permanent justifie l'éphémère. Il est le garant des vertus distinctives du peuple, alors que le roi gère le temporel et exécute, en valorisant ou punissant selon les vertus ou les travers analysés par le druide. Le druide est le conseil du roi, et c'est le druide qui consacre le roi dans ses fonctions. Personne en Gaule, vous dit-on ici, et c'est César qui le dit, ne peut parler avant le roi. Et jamais le roi ne parle avant le druide. Tout roi, en fait, se double d'un druide, qui pour sa part est indépendant de chacune des unités constitutives de la société locale. C'est le druide qui consacre le roi, mais qui consacre un roi choisi par la population. Et c'est aussi le druide qui le démet en cas de faute. Le druide est à la fois omniprésent, parce que reconnu par chacune des unités comme le juste, et entretenu par l'ensemble des unités qui composent la société locale. Il n'est, en tant que responsable de l'exercice du sacerdoce, dépendant d'aucune unité de l'ensemble en particulier. Pour qu'une tribu puisse se constituer, c'est encore le patrimoine humain qui va jouer, avant le patrimoine territorial. Une tribu se constitue autour d'ancêtres communs et de pratiques communes qui ont pu s'affirmer au cours du temps et qui risqueraient de constituer un clan dans la tribu existante. La décision de création d'une tribu, décision donc d'un essaimage en quelque sorte, se prend lors d'une réunion de tous les rois de la tribu existante en un conseil qui doit se prononcer à l'unanimité. Ce principe, que nous pensons pouvoir généraliser ici à tout le monde celte, est celui qui fut en effet en vigueur en Irlande à la naissance des trois provinces constitutives de ce pays, aujourd'hui pays, et donc du trèfle irlandais que vous avez vu apparaître déjà plusieurs fois sur les diapositives. L'unité la plus grande chez les Celtes est donc la tribu. Elle n'est pas une nation. Elle est un pays. Mais un pays au sens où nous l'entendons lorsque nous parlons du pays du Pével, du pays du Carambeau, par exemple. Ainsi, il y a 2000 ans, nous serions ici chez les Belgaes et au sein de la province des Belgaes, et oui, des Belges, nous ferions partie des Nerviens, voisins des Éburons, avec lesquels nous sympathisons souvent, mais voisins aussi des Ménapiens, qui habitent l'actuelle Flandre occidentale et qui ont la fâcheuse tendance de sympathiser avec les Germains, jusqu'à voir leur identité celtique à plusieurs reprises remise en cause. C'est flamand. Le symbole de la société celtique, je viens de le rappeler, bien sûr, est celui du trèfle, qui a été conservé par le dernier pays celte en date, qu'est l'Irlande. Le trèfle représente parfaitement l'organisation sociale celtique. Chacune des trois feuilles représentant une unité à quelque niveau que ce soit, et la tige reliant l'ensemble aux autres ensembles similaires, elle est en quelque sorte le quatrième élément indépendant, mais omniprésent, l'élément essentiel qui est le druide officiant dans la zone franche et sacrée de sa clairière. Et nous verrons que la loi ternaire de la conception en triade se vérifie jusque dans l'autre monde, chez les dieux. Cette constante se retrouve, bien sûr, dans la symbolique aujourd'hui bretonne, galloise ou irlandaise dont je vous ai sélectionné quelques petits exemples. Je parlais donc de clairière, mais qui est donc ce personnage qui officie dans la clairière, ce druide, d'où sort-il? Il est un mage, lit-on, il est le sage, il est le savant, le très voyant. Le druide est autant prêtre que médecin, enseignant, juge et conseiller du roi, voire même stratège militaire, guerrier, chef de guerre, laboureur et ambassadeur. Si l'on en croit César, il peut être un ambassadeur redoutable. César, effectivement, a eu à rencontrer le fameux druide Domiakos à Rome. Druide qui était envoyé comme porte-parole d'une bonne partie du sud-est de la Gaule. Et de cette rencontre, César s'est difficilement remis. Bien sûr, nous ne possédons aucun document dont les druides aient été les auteurs, si ce n'est le fameux calendrier de Coligny que je vous montrerai tout à l'heure, qui était écrit en latin et que nous commenterons au moment de parler du calendrier celte, bien sûr, et du calendrier des célébrations religieuses. Mais, pour une fois, les informations issues des témoignages du dernier siècle avant notre ère et celles que nous pouvons tirer des légendes et des récits irlandais du Moyen-Âge se recoupent parfaitement. Le grec Posidonios compare les druides aux pythagoriciens, ce qui semble effectivement une référence sûre en matière de connaissances. Mais même si des similitudes sont frappantes, comme nous le verrons plus loin, faire des druides les héritiers des disciples de Pythagore, ce philosophe grec que l'on situe au VIe siècle avant notre ère, relève naturellement de l'imaginaire, autant que d'une mauvaise foi caractérisée, qui refuserait aux Celtes, vus comme barbares, l'aptitude à développer la connaissance par eux-mêmes. Ce dont on peut être quasi sûr, c'est que la science dont les druides font preuve, ainsi que l'idée même de la fonction druidique, est mentionnée par les Grecs, les Romains et les Irlandais comme provenant de l'île du nord du monde, ou encore du nord de l'île des Bretons. On pourrait bien sûr penser à l'Irlande, dernier bastion à avoir résisté contre les invasions romaines. Mais les légendes irlandaises situent, elles aussi, la provenance de la tradition druidique au nord de chez eux, ce qui reviendrait à envisager l'Écosse ou bien l'île de Man. L'une comme l'autre de ces deux contrées ont en effet longtemps possédé des statuts territoriaux particuliers, consacrant leur indépendance ou leurs caractéristiques de terres sacrées. Les recherches linguistiques actuelles nous feront peut-être pencher pour l'île de Man. Man pouvant signifier la demeure ou l'enceinte isolée, comme ce que l'on retrouve dans les mots manoir ou manor en anglais. Mais, par ailleurs, la volonté de saint Augustin de confirmer comme vraie la légende selon laquelle une partie des reliques de saint André, premier des apôtres, aurait été transportée en Écosse en 353, laisserait à penser que l'Écosse se devait d'être christianisée comme centre de pèlerinage majeur, afin qu'elle ne demeure peut-être pas la terre sacrée des Celtes, dont la religion, bien sûr, était alors décrétée païenne. Toujours est-il que César situe dans ce qu'il nomme l'île au nord du monde, le lieu où les druides étaient instruits des arcanes de leur fonction. Il nous faut donc imaginer sur l'île de Man ou en Écosse, une espèce d'université où les apprentis druides auraient été formés, qu'ils soient originaires de nos contrées occidentales ou des régions orientales telles que l'actuelle Autriche ou la Hongrie. Cela n'a, après tout, rien d'invraisemblable. Une fois la mainmise de l'Église de Rome sur la plupart des territoires des Celtes, il va de soi que faire de l'extrême ouest européen le pendant sacré résistant à Rome ou à l'idée d'une évangélisation sous le sceau de vérités émises depuis Jérusalem, devait être tentant pour ceux qui tenaient à affirmer la persistance d'une tradition occidentale face à cette vague déferlant depuis l'Orient. Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que l'idée druidique devait recouvrir une pensée suffisamment commune pour que la société celtique ait perduré. Perdurer en tant que tel sans aucun autre lien que celui de l'esprit entretenu par les druides, et ce durant quelques 2000 ans, c'est-à-dire aussi longtemps qu'a vécu l'idée chrétienne jusqu'à présent. Autre donnée que nous livrent autant César que Posidonios, mais aussi les légendes irlandaises, c'est que la formation d'un druide durait une vingtaine d'années. Les Celtes ayant un système numérique à base 20, nous ne pouvons être certains que cette vingtaine ne soit pas du même ordre que la douzaine médiévale et qui symboliquement signifiait la complétude d'un cycle. Ainsi, la vingtaine désigne-t-elle en langue celte l'âge adulte. Notons au passage que le mot « vin » nous vient bien des Celtes, ce qui se révèle dans la composition bizarre du nombre 80. En tout cas, le jeune homme pressenti comme méritant et digne de devenir druide devait être repéré par le druide enseignant dès l'école druidique du village et confié ensuite au druide chargé de le former. Le jeune homme ne revenait vraisemblablement dans la société qu'une fois adulte et pourvu du statut de druide après sa formation, que l'on s'accorde à nommer à juste titre une initiation en ce qu'elle concerne davantage la connaissance que le simple savoir. Soulignons ici que le jeune homme recruté ou coopté ne l'était pas dans une classe unique. Si l'on cite des druides fils de druides, il est également clair que les récipiendaires de l'initiation druidique pouvaient provenir d'une quelconque des trois classes auxquelles nous avons fait allusion plus haut, à l'exclusion sans doute de la classe des esclaves qui regroupait les déchus de la société ayant miraculeusement échappé à la peine de mort. Ce que nous pouvons également tirer des témoignages, historiques autant que des légendaires, c'est la façon dont cet enseignement druidique était transmis. Rien n'était écrit, nous l'avons dit déjà. La transmission de la connaissance se faisait uniquement oralement. Il est vrai qu'il s'agissait plus de transmettre une connaissance qu'un savoir, comme nous l'avons mentionné, mais et qu'une initiation ouvre en effet traditionnellement à une libération de la perception plus qu'à l'accumulation de données prédigérées, qui elle ouvre davantage à une tête bien faite plutôt qu'à une tête bien pleine, comme l'écrivait notre célèbre poète, dont les opinions d'ailleurs, car j'ai rappelé l'opinion sur la souveraineté, est très proche de ce que nous évoquons aujourd'hui. Le druide parle par triade, mot que nous avons déjà rencontré. Il énonce en fait des vertus et des travers, trois par trois. Ce procédé participe autant d'un esprit révélant la souveraineté de la loi ternaire que de la volonté de répandre une éthique dont les éléments doivent être mémorisables et rythmés pour être récités sous forme de poème ou chantés. Les exemples affichés ici ne sont en fait que des triades irlandaises qui sont des reprises des textes écrits vers la fin du VIe siècle. Mais c'était quand même sous cette forme, semble-t-il, que les druides transmettaient leurs connaissances, parce que nous imaginerions, en fait, comme la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais ce schéma qui formate aujourd'hui notre pensée n'est que trop limité à la logique, alors que la connaissance druidique ne peut pas se passer de l'analogique. Il s'agirait donc plutôt de la triple dimension des choses qu'un druide ait eu à cœur d'énoncer. L'approche sensorielle de la chose elle-même, isolée, l'approche de la chaîne environnementale à laquelle la chose appartient, l'approche de l'élément de l'univers qui la constitue. En tout état de cause, les historiens romains insistent sur l'importance que revêtait la mémoire dans l'histoire que les Celtes se faisaient de la connaissance. La mémorisation permettait en fait, de toute évidence, la transmission d'un vécu, plus que d'un conçu. Les druides, de toute évidence, n'étaient pas des philosophes. César et Cicéron insistent sur l'intelligence brillante des druides. Mais aussi, ils font allusion au sarcasme, à leur jeu de mots, aux allusions qu'ils font pour faire réagir l'interlocuteur et le toiser, sinon le contrer. Avoir raison face à un druide est impossible pour Cicéron. Le druide parle par métaphore et parabole, mais il n'énonce pas de vérité. Strabon dit encore qu'il ne parle que par énigme. Mais rien de la science des druides, ça ce sera la nôtre d'énigme, rien de la science des druides, rappelons-le, n'était écrit. Chez les Celtes, la tradition fait loi. La tradition orale émise par les druides fait autorité. Tradition aussi respectée que partagée, qui a fait perdurer, rappelons-le, l'idée de souveraineté celtique aussi longtemps, car, faute de documents écrits, les Celtes n'ont pas connu, comme ailleurs, la prise de pouvoir des clercs. De la science des druides, de leur connaissance d'ordre scientifique, nous ne savons que bien peu de choses. Nous savons qu'ils connaissaient les plantes médicinales et que le gui était une de ces plantes. Strabon nous dit qu'il était cueilli en grande cérémonie, à l'aide d'une faucille d'or et précieusement recueilli dans un linge blanc, afin qu'il n'entre pas en contact avec le sol. Et ce, le sixième jour de la lune. Strabon ne précise pas le mois de la cueillette, ce qui tend à nous dire que le gui était cueilli chaque mois, ou certains mois, et sans doute pas de toute évidence avec ses boules qui n'apparaissent que l'hiver. Le gui médicinal n'est pas le gui symbolique qui donne ses fruits alors que les arbres paraissent morts et que nous sommes contents d'honorer à la nouvelle année. Le druide est donc médecin. Et à ce titre, notons que les Romains furent ébahis de trouver autant de sources thermales en Gaule et en Bretagne. Sources dont ils ont vanté les bienfaits curatifs qui avaient été découverts et exploités depuis longtemps par les druides, bien sûr. Nous savons également que les druides connaissaient l'astronomie ou l'astrologie, ce qui revenait au même à l'époque. Ont-ils utilisé le célèbre édifice néolithique de Stonehenge, dont on démontre aujourd'hui qu'il pouvait servir d'observatoire des levées et couchers solaires et lunaires? Probablement. Ils étaient, de toute évidence, responsables du calendrier. Calendrier, lui aussi, non seulement commun à tous les Celtes, mais différent des calendriers sumériens, grecs ou romains. Un calendrier lunaire, dont nous verrons qu'il fallait des experts pour le respecter. Que savons-nous d'autre des druides? Eh bien, d'abord qu'il existait plusieurs classes druidiques. Diodore de Sicile et Strabon, les historiens romains, nous disent qu'il y a chez eux trois classes à qui on rend des honneurs extraordinaires, les bardes, les vates et les druides. Les druides détiennent les plus hautes fonctions. Ils sont les juges et conseillers des rois. Timagène d'Alexandrie, historien grec, dit que parmi la classe sacerdotale des Celtes, les druides l'emportent par leur génie. Mais il le dit également que tous, bardes et vates y compris, sont des hommes de très grande culture. Que les bardes chantent aux 12 accents de la lyre, qu'ils composent des vers héroïques en vantant les exploits des héros de la tribu. Les vates, quant à eux, auraient été responsables des sacrifices faits en offrande aux dieux, mais aussi les interprètes de la nature à laquelle ils vouaient et prêchaient le plus grand respect. Autour de chaque druide exercent plusieurs vates, et des bardes en plus grand nombre encore. Les druides sont revêtus en cérémonie de leurs manteaux blancs, verts ou bleus, couleur correspondante à ce que j'ai représenté ici, selon leur classe. Ils officient au village, au canton, dans la clairière où se rassemble la population, mais ils participent aussi à des assemblées de druides. Et c'est ainsi que l'on comprend comment les druides jouent le rôle de fil conducteur dans la tradition celtique. Ils se réunissent entre eux, et ils élisent le grand druide, et vraisemblablement quelques archidruides. Le centre druidique pour la Gaule était situé chez les Carnutes ou chez les Étuennes, voire tantôt chez les uns et tantôt chez les autres, nous dit César. Ces lieux n'avaient de toute évidence d'existence sacrée et druidique que le temps que durait l'assemblée et les rituels de circonstance, mais ne pouvaient en aucun cas être décrétés lieux définitivement druidiques, ces derniers refusant toute attache territoriale et vraisemblablement toute sacralisation d'un lieu particulier hors cérémonie. Chartres est un des lieux envisagés, de même qu'Évreux et Gisors, voire Autun, mais l'honnêteté intellectuelle impose qu'on ne transforme pas des conjectures en affirmations, ne jouons pas au Da Vinci Code. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'à la fonction sacerdotale est attachée une symbolique de l'arbre, vraisemblablement du chêne en particulier, mais aussi du pommier. Cette tradition de l'arbre, comme témoin de la force de vie de la nature ou comme axe du monde, est par ailleurs aussi présente dans d'autres mythologies, bien sûr. En tout état de cause, le temple druidique, au village comme ailleurs, est une clairière, et il semble que les druides aient toujours accordé à l'arbre et au bois un très grand respect. Après tout, n'est-ce pas les arbres bordant la clairière que reproduisent les colonnes des temples de pierre? On peut se le demander. Nous ne savons pas si la fontaine était systématiquement associée à la clairière. Mais nous savons que les fontaines des Celtes sont demeurées des lieux sacrés sur lesquels nombre de nos églises ont été édifiées. Nous savons aussi que l'eau faisait partie de la triade, encore une, la triade des éléments traditionnels, associés à la terre et au feu. Vous me direz, mais ça en fait que trois, où est le quatrième? Eh bien, le quatrième élément de la liste, classiquement reconnu depuis les alchimistes bien sûr, c'est l'air, et l'air était pour les druides attaché au monde de l'au-delà, l'autre monde, ainsi qu'ils le nommaient. À l'eau vive, source de vie, se rattache aussi l'idée du vase qui la recueille et qui contient l'élixir de la vie éternelle ou de la jouvence. Le calice de l'Eucharistie, le Graal des légendes arthuriennes médiévales trouvent leur correspondance chez les druides dans le fameux chaudron. Le chaudron est de toute évidence un élément de mobilier rituel présent chez tous les indo-européens et toujours avec ce même sens symbolique de facteur de renaissance. Peut-être le chaudron a-t-il pu servir lors de sacrifices, tant il paraît certain que les Celtes pratiquaient des sacrifices, au moins d'animaux. Quant aux témoignages romains concernant les sacrifices d'humains, ils se confondent avec les sentences et sont bien difficiles à interpréter de manière sûre. Certains auteurs pensent que les prisonniers de guerre à qui l'on coupait la tête, pour être sûr qu'ils ne risquent pas de renaître en étant plongés dans le chaudron de la Renaissance, étaient aussi sacrifiés par le feu, enfermés dans une cage de bois qui pouvait prendre la forme d'un géant. Coutume qui est restée en vigueur en Angleterre tous les 5 novembre lors de la fête nationale où l'on brûle le Guy Fawkes qui a failli mettre feu au Parlement. Les druides avaient la responsabilité de la gestion des repères du temps, avons-nous dit. Prérogative d'importance mêlant forcément le terrestre au cosmique. Alors disons quelques mots du calendrier et des fêtes celtiques. La religion des Celtes n'est pas solaire mais lunaire. Aucune fête celtique ne correspond en effet au solstice. N'en déplaise la littérature romantique française, et Strabon nous dit que les Gaulois ne comptent pas le temps en jour, mais en nuit, ce que confirme le fameux calendrier retrouvé à Coligny dans l'Ain. Alors comment ça marche? Eh bien, l'année celte compte 13 mois, plus un 14e que l'on ajoute à chaque lustre, c'est-à-dire tous les 5 ans. Les siècles sont de 30 années lunaires. Chaque mois compte 29 à 30 unités de temps que l'on nomme lattès. Chaque unité comprenant une nuit et le jour suivant, ce qui fait que la date changeait au coucher du soleil. Les mois comprenaient un demi-mois à lune descendante et un demi à lune montante. On comprend aisément que la gestion d'un tel calendrier nécessitait la présence d'experts en constante contemplation, ce que bien sûr furent les druides. L'année comptait 2 saisons. La saison sombre et la saison claire. Chacune se subdivisant en 2 périodes, et chacune des périodes étant marquée par une célébration. Si on en croit la littérature irlandaise, seule source fiable à ce sujet, l'année commence la nuit de Samhain, c'est-à-dire la nuit précédant le 1er novembre de notre calendrier. Les festivités du Nouvel An celte sont, sans aucun doute, les plus connues de nous tous. Elles duraient vraisemblablement 8 jours, un peu comme la trêve des confiseurs chez nous. 2 jours, on ouvrait les tombeaux pour y faire le ménage, et le soir venu, on invitait au banquet les ascendants défunts, quelques convives, se maquillant et se déguisant de façon à ressembler aux morts. C'est aussi le jour où l'on rendait hommage à tous les héros défunts du village. Il est facile de reconnaître dans cette description à la fois la fête de tous les saints ou tous saints, mais aussi la fête des morts que la chrétienté mit en place au cours du 8e siècle. On pense aussi, bien évidemment, à la fête d'Halloween, fête celtique irlandaise issue de la fête de Samhain, exportée aux USA par la communauté irlandaise et puis réimportée en Europe par la chaîne McDonald's. Et oui, voulez-vous, tout le monde peut participer pour véhiculer la tradition, pourquoi pas. Avec Samhain commence la saison sombre. Vient ensuite la fête de Imbolc. Elle est célébrée au moment de l'année qui correspond à notre 1er février et donc à notre fête de la Chandeleur. La fête chrétienne fut instaurée par le pape Gélase en 490. Il fut désormais interdit de célébrer d'autres fêtes ce jour-là, que ce fût la fête romaine des Lupercales ou celle de Imbolc. La fête païenne, celte ou romaine, était déjà la fête des chandelles, origine du nom chrétien. À Imbolc, on se purifie. Imb signifie se laver, et bolc ou folk, faire propre. On se lave donc rituellement, et on allume des flambeaux aux endroits que l'on veut purifier. C'est en quelque sorte le grand nettoyage de printemps. Ce jour-là, on célébrait la déesse mère, Anna, que l'on trouve aussi sous le nom de Belisama en Gaule, et dont le nom irlandais était Brigitte. Le culte de la déesse fut converti en un culte rendu à Sainte Brigitte de Kildare après la christianisation de l'Irlande. À Imbolc, on célèbre la prépondérance du jour sur la nuit, enfin confirmée, et c'est le jour où l'on commence à sortir les brebis des bergeries, car l'ensoleillement est devenu suffisant pour que les animaux puissent vivre dehors. Puis vient la fête de Beltane, seconde fête agraire, qui elle aussi va nous faire penser à d'autres fêtes de notre calendrier des Grégoriens. Le jour de Beltane, qui est en date du 1er mai chez nous, on célébrait chez les Celtes l'arrivée de la saison claire et la reprise des tâches extérieures telles que l'agriculture et la chasse, mais aussi les razzias et la guerre. Elle est un grand moment, car on allume de ci, de là des bûchers qui flambent dans la nuit et l'on danse autour du feu, comme on le faisait, ou on le fait encore, ou on le fera encore, dans nos villages pour la Saint-Jean-Baptiste, qui consacre l'arrivée de l'été. Peu après le jour le plus long de l'année, au moment du solstice d'été tel qu'on le datait au 5e siècle, c'est-à-dire le 25 juin. Le nom de cette fête de Beltane contient la racine Bel, qui nous rappelle la déesse Belisama, déjà fêtée à Imbolc, mais aussi le dieu Belenus, son homologue masculin, à qui la fête de Lugnasad, qui boucle le cycle du calendrier, est consacrée. Cette fête de Lugnasad, on l'a célébrée en date actuelle du 1er août. Elle est la grande fête de l'été et donc des moissons, mais aussi celle de la paix. Les guerriers étant rentrés chez eux pour participer aux travaux des champs qui nécessitaient la présence du plus grand nombre possible au village. C'est la fête du roi Lug, alias Belenus, dont on rappelle les bienfaits en constatant les richesses accumulées grâce à sa bonne administration. Cette fête royale est aussi celle de Lug, qui est en quelque sorte le roi des dieux et le roi des rois. Les célébrations celtiques sont donc, pour trois d'entre elles, agraires. Une pour la divinité masculine et une pour la divinité féminine, encadrant dans une triade de plus la fête de la divinité, en quelque sorte, androgyne. Parlons donc des dieux. Les noms des dieux celtiques sont innombrables et varient selon les dialectes et les lieux. Pas de surprise, puisque le respect de ce qui est local est essentiel chez eux. Cette multitude de personnages fait un peu penser aux nombreux saints de la chrétienté dont les légendes se sont construites autour de faits héroïques ou miraculeux locaux qui, quoique divers en apparence, répondent à quelques grands thèmes et symboles communs. Pour s'y retrouver, il suffit de se fier à la loi des triades et de se souvenir que le sacré et le profane ne sont pas séparés chez les Celtes. Ainsi, les dieux celtiques sont la réplique idéalisée des trois fonctions ordonnatrices de la société. Ils représentent la perfection de l'œuvre possible dans chacune des fonctions dont ils transcendent le but en le plaçant dans l'éternité. À ce propos, avant d'aborder le panthéon celtique, mesurons une fois encore la différence qui sépare ce monde celtique de celui des gréco-romains. Ces derniers, fondamentalement matérialistes et rationalistes, se riaient de la religion druidique naturaliste et analogique. Posidonios se moque, en effet, en écrivant que les Celtes et leurs druides sont comme l'étaient les Pythagoriciens, car, le croirez-vous, il croyait en l'immortalité de l'âme. Ouaf, ouaf, ouaf. C'est pourtant bien sur cette croyance, à vrai dire, que repose aussi l'esprit des Celtes. L'esprit des Celtes qui, dans leurs actes quotidiens, inscrivent leur participation à l'œuvre de création, qu'ils considèrent non pas comme accomplie, mais comme en cours d'accomplissement. Cette croyance en l'immortalité de l'âme a fait chez eux qu'on ne craignait pas la mort, que mourir c'était se fondre dans l'âme commune du peuple qui s'en trouvait régénéré. Cette conception de l'immortalité de l'âme a sans doute induit dans l'esprit de ces hommes une perception de la fraternité qui le reliait au peuple qui les avait précédés, et qu'ils n'ont pas renié. De même qu'elle les a reliés à ceux qui les ont suivis, car ils n'ont opposé que très peu de résistance à l'évangélisation, pour autant que la chrétienté admette leur repère traditionnel. Ce fut le cas lorsque les dévotions à Brigitte se muèrent en celles vouées à Sainte Brigitte de Kildare, lorsque Sainte Anne en Bretagne prit la place de Anna, ou lorsque fut instituée la chandeleur le jour de la fête des chandelles d'Imbolc. S'entendre énoncer que l'âme est immortelle n'était pas de nature à les choquer, pas plus que la présentation plus tardive du dogme de la Trinité, qui pouvait ressembler au traditionnel principe de la triade, dans une version certes très gréco-latine. Pourtant, l'au-delà des Celtes n'est pas le ciel. D'ailleurs, si l'on en croit le Romain Strabon, les Celtes n'avaient qu'une peur, celle que le ciel leur tombe sur la tête. Cette petite phrase, qui a pris aujourd'hui des accents de boutade, n'est pas expliquée par l'auteur. Sans doute ce peuple qui s'assemblait dans les clairières et vivait dans des contrées couvertes à plus de 50% par des forêts, craignait-il la foudre? Ou bien faut-il se référer à la coutume qui consistait à recouvrir la face du guerrier mort de son bouclier sur le champ de bataille, puis dans sa tombe, afin qu'il n'ait pas à supporter le regard du terrible dieu Taranis, père du ciel et de la foudre. L'au-delà des Celtes n'est pas le ciel. Il l'appelle l'autre monde, que la légende représente comme une île dont les humains n'aperçoivent que les brumes, une espèce de centre du monde, comme l'imaginaient les anciens Grecs de Delphes et les disciples d'Apollon, une île que les légendes nomment Avalon, et dont nous avons déjà vu les correspondances symboliques possibles, puisque je vous ai présenté la diapositive que vous avez vue tout à l'heure. Pour les Celtes, une mort vaut une vie. C'est-à-dire qu'il faut une mort pour qu'il y ait renaissance. C'est la loi de la nature qui prévaut. Car le surnaturel n'est autre que l'idée analogique que l'on se fait du naturel. Mourir, c'est connaître le passage qui relie à l'autre monde. C'est aller aider les dieux à éclairer les hommes en leur offrant l'expérience de le savoir-faire acquis durant l'existence, et en même temps, pouvoir prétendre figurer dans le monde des vivants, au rang des héros dont l'exemple s'inscrit dans les mémoires, et qui s'inscrivent dans les mémoires, pardon, et qui sont célébrés le jour de la fête de Samhain, au Nouvel An, comme nous l'avons dit plus haut. C'est donc dans cet autre monde que vivent les trois dieux de leur panthéon. Trois dieux qui reproduisent, si je retrouve la diapositive, pardon. Trois dieux, donc, qui reproduisent exactement les trois classes humaines. En fait, l'autre monde n'est pas un monde autre. Taranis, que nous avons déjà cité, est le druide. Il est le père des dieux, que l'on nomme aussi en Irlande le Dagda. Il est maître du ciel et de la foudre. Il est le père qu'on craint, mais qu'on imite et admire. Teutates est le dieu guerrier, qui correspond à la classe militaire humaine. Et Zeus, quant à lui, est le dieu producteur, agriculteur, bûcheron, artisan. La triade de ces trois dieux est centrée sur le couple de Belenus et Belisama, qui sont dotés l'un et l'autre rigoureusement des mêmes aptitudes, c'est-à-dire de tous les savoir-faire dévolus aux classes humaines, y compris celui du sacerdoce. Ils représentent la connaissance primordiale qui détient le potentiel humain dans la totalité et la perfection. Ils sont à eux deux, en quelque sorte, la puissance androgyne créatrice, dans son aspect lunaire et masculin, comme dans son aspect solaire et féminin. Les deux aspects de la puissance créatrice portent pratiquement le même nom, Belisama est la déesse soleil, et Belenus est le dieu lune. Sans doute, me direz-vous, est-ce l'effet du cidre qui fasse qu'il y aurait une déesse solaire et un dieu lunaire ? Eh bien non, il en était ainsi. Souvenons-nous d'ailleurs que chez eux, comme c'est encore d'ailleurs chez les Germains, et encore dans la langue anglaise, la lune est masculin, en témoignage, comme en témoigne par exemple le titre fameux de Mr. Moonlight, et le soleil féminin, comme en témoigne aussi la langue germanique, Die Sonne. Ceci nous amène d'ailleurs à réfléchir sur le thème de la souveraineté. Dans toutes les traditions, indo-européennes notamment, mais aussi sumériennes, c'est la mère qui consacrait l'identité de la famille, et par conséquent, la déesse mère qui consacrait la souveraineté d'un peuple. La nature, évidemment, présidait à ce choix. Maman, c'est sûr, papa peut-être, comme dit l'adage. Ce n'est en fait que lors du passage des sociétés nomades aux sociétés sédentaires que le patriarcat a supplanté la transmission matrilinéaire. Toutefois, c'est bien la fée Viviane qui détient l'épée Excalibur en attendant le retour du roi Arthur en Dormition. C'est la déesse Britannia qui représente le peuple de Grande-Bretagne. C'est de la fée Mélusine, pardon, que prétendaient descendre les rois Plantagenet. Et c'est Marianne qui symbolise la République française. Si le mot « patrie », qui n'avait pas d'équivalent chez les Celtes, a pour racine « pater », le père, c'est bien de la mère patrie dont tout le monde a tant parlé. Et si le dieu des chrétiens est le père, le temple qui réunit les fils est bien souvent dédié à Notre-Dame. Les adeptes de la psychanalyse auront sans doute ici une explication à fournir quant à l'attachement à la mère en dépit du pouvoir du père. Alors, nos druides, que sont-ils devenus ? Madame la directrice, rassurez-vous, j'ai presque terminé. Nos druides, que sont-ils devenus ? À l'époque gallo-romaine, l'Empire de Rome a imposé sa culture, la religion d'État a imposé les dieux romains, dont les Flamines ont bricolé et décrété l'équivalence avec les divinités naturalistes celtiques. Taranis et Teutates sont devenus Mercure, Lug s'est vu baptiser Apollon, et Brigitte ou Epona s'est vu baptiser Minerve. Ce qui a accompagné la sécularisation de la religion, c'est l'édification de temples de pierre, et donc d'endroits décrétés sacrés une fois pour toutes, au beau milieu de ce qui devenait des villes. Et ce fut l'interdiction des assemblées en clairière qui tomba. Finalement, les attributs de la déesse mère se sont effacés définitivement, et le créateur s'est mis à arborer un caractère masculin évident, alors que la pensée naturaliste s'effaçait derrière la pensée conceptuelle, plus encore grecque d'origine que romaine. Le rôle sacerdotal des druides s'est ainsi peu à peu éteint sur le continent, mais aussi un peu plus tard en Grande-Bretagne, où Saint-Martin mena une guerre acharnée contre tout vestige de la tradition druidique. La culture romaine, participant de la conquête d'un patrimoine matériel, les rois ont été convertis à la culture de l'avoir, le pouvoir appartenant désormais non plus aux méritants mais aux possédants, à l'émissaire de Rome et non plus au héros local. Cette nouvelle notion de la souveraineté ne laissait évidemment aucune place aux druides dont la fonction sociale traditionnelle résidait dans la pérennisation de l'esprit celtique. Et pourtant, mesdames et messieurs, vous aurez compris que l'esprit druidique qui a fait vivre la société celte pendant si longtemps ne pouvait pas, de par son caractère essentiellement naturel, s'effacer des rêves humains. Les moines fondateurs de nos villages, organisateurs de grands travaux de défrichement et d'irrigation, ont encore longtemps joué le rôle exact du druide dans des sociétés humaines naissantes où les trois fonctions indo-européennes s'illustraient par nécessité. Sans surtout chercher d'illusoire transmission linéaire, nous ne pouvons que penser aussi à l'éthique de la chevalerie, si proche de celle du druidisme par son accès depuis toutes les classes de la société, par la négation de toute possession de fief, par le partage des trois fonctions et par la mise en œuvre des vertus de la triade pythagoricienne, essénienne ou chrétienne, que constituent les vertus de la foi, de l'espérance et de l'amour. C'est en tout cas ce que nous montrent les légendes arthuriennes, avec Merlin pour chef d'orchestre, dont l'idée druidique de souveraineté sans patrie tenta, certes au bénéfice des Plantagenets, de réunir les Celtes de Gaule et de Grande-Bretagne au XIIe siècle, sous l'impulsion du comte de Champagne, qui donc louait les services d'un certain Chrétien de Troyes. En Bretagne, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande, dernier bastion où l'on arbore encore un trèfle identitaire, la tradition a rejoint aujourd'hui la coutume. Le centralisme étatique des nations britanniques et françaises qui les englobent n'y est toujours pas très populaire, et les tenants de l'esprit qui unifia tant d'âmes pendant si longtemps font paradoxalement figure de séparatisme. En conclusion, je dirais qu'il n'est pas très facile, il est vrai, de comprendre aujourd'hui, ni même d'admettre, ce qui fit pourtant la force de la société celte dont la dimension en espace et en temps est plus que respectable. S'il nous est relativement aisé de saisir que les druides en étaient les personnages clés, étant donné la sagesse dont ils faisaient preuve et qui forçait au respect, il va tout autant de soi que tant de siècles passés durant lesquels nos esprits ont été formatés selon les lois de l'éducation à la façon gréco-romaine nous ont condamnés à n'inscrire la souveraineté des peuples que dans un schéma de possession territoriale et d'asservissement de peuples. Cette approche matérialiste du monde était sans doute inenvisageable pour un druide, tout autant qu'il nous est aujourd'hui incompréhensible que l'on puisse ne pas séparer le sacré du profane, l'analogique du logique, le naturel du surnaturel. La persistance du mythe ne suffit de toute évidence pas à nous empêcher de créer cette dualité qui, pour un Celte, aurait relevé du plus pur irréalisme. Le combat contre ce raisonnement binaire fit néanmoins, à une époque très proche de nous, la gloire de nos derniers bardes en date que furent les célèbres surréalistes, Breton, Cocteau, par exemple, sans oublier bien sûr Saint-Exupéry, l'une de ses œuvres étant mondialement reconnue. Le terme clé, pour conclure, serait bien la notion de responsabilité. Non pas une malsaine culpabilisation qui soumet, mais une obligation de réponse à la parole de la tradition. Dans la société dont les druides représentaient l'ordre, un ordonnancement social reposant sur une vision de l'humanité qui pourrait n'être qu'une famille élargie, Aucun élément ne peut se désolidariser de l'ensemble dans le présent, ni même du passé partagé, et encore moins d'un avenir traditionnellement vécu comme un présent à reproduire à jamais. Aux yeux d'un druide, nos sociétés centralisées actuelles relèveraient dans leur conception du plus haut rêve qui soit, dans la mesure où l'on voudrait que leur base en soit le sommet. Notre Europe rêverait bien d'égaler le monde des Celtes en union et en pérennité, mais sa construction traverse des soubresauts. L'idée celtique parfois refait surface par le biais de ceux qui militent pour une confédération. L'Europe des régions a été souvent imaginée, mais les identités nationales qu'on se donne bien du mal à définir, en dépit du naturel mélange des ethnies à travers le temps, sont chroniquement de nature à morceler l'union et à étouffer l'expression du véritable vécu commun qui, après tout, reste à inventer. Approcher les Celtes n'était pas aujourd'hui œuvre d'histoire, mais se voulait un effort d'acculturation, une tentative de regard interculturel. Le déboisement d'une clairière d'utopie au beau milieu du taillis de nos idées reçues qui rendent bien lointain à nos yeux ce patrimoine pourtant si précieux. Merci. Votre attention.
Nous vous remercions, Monsieur Frugier. Merci à Emilia aussi pour la mise en page des diapositives. La parole est à vous si vous avez des questions, des interrogations, des compléments d'information. Alors, chacun son tour. Hein.
S'il vous plaît, comment sans écriture et sans druide, les mythes sont-ils parvenus, sinon jusqu'à nous, au moins jusqu'à vous ?
Alors vous avez ici donc les références, parce que parfois ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, j'ai simplement inventé la liaison entre les différents phénomènes selon le sujet qui m'était demandé. Alors comment ça parvient jusqu'à nous ? D'abord, les mythes ne meurent jamais. C'est-à-dire que les mythes qui sont les nôtres aujourd'hui sont rigoureusement les mêmes que ceux qui ont toujours été. Ils sont les mêmes en Chine d'ailleurs, ils sont les mêmes en Orient, ils sont les mêmes de l'autre côté de la Terre, mais avec une particularité qui est la particularité indo-européenne que nous commençons aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 60, à mieux identifier, et depuis ces 15 dernières années, en ce qui concerne l'archéologie linguistique qui me passionne, mais qui n'est devenue possible que grâce aux bases de données informatiques qui nous permettent aujourd'hui de stocker un nombre de reproductions de sons, reproductions orales suffisamment grand pour pouvoir travailler, chose qui était inenvisageable il y a 30 ans encore. Alors, les mythes, comment parviennent-ils ? Ben d'abord, les mythes celtes, ils sont parvenus puisque l'Irlande ne les a jamais lâchés. Ensuite, nous avons les témoignages. Les témoignages sont nombreux. J'en ai cité ici bon nombre. Et puis, il y a aussi ce qui n'est pas forcément cité, mais qu'on peut très bien aller chercher. Il suffit de se rendre dans les abbayes celto-chrétiennes. Il en existe une en Bretagne, à Châteaubriant. Il en existe une autre à Glastonbury, en Angleterre. Ces deux abbayes, eh bien, continuent, non pas bien sûr, à produire des druides, mais elles produisent des moines qui ont une renommée internationale, qui voyagent, qui parlent sept langues chacun, et qui sont des personnages absolument sidérants à rencontrer de nos jours encore, et qui, quoique chrétiens, eh bien, vous compteront encore les mythes celtes. Oui, oui, les mythes sont là. Un mythe ne meurt pas. Il est bien plus facile de se souvenir d'un mythe que de pouvoir être sûr de la véracité d'un témoignage historique.
Justement, existe encore
Les druides, elles sont encore parmi nous? Est-ce qu'il y a encore une survivance du druidisme?
Alors, vous savez, je crois que quand une époque est morte, elle est morte. C'est comme si vous me demandez si un chevalier de la Légion d'honneur a un rapport quelconque avec un commandeur des Templiers ou avec un chevalier d'un autre temps. Dans d'autres pays, certainement. Dans toutes les royautés européennes, par exemple, où la chevalerie, on peut être adoubé chevalier en venant d'une classe n'importe laquelle et faire partie du comité d'éthique proche de l'aristocratie. C'est le cas en Angleterre, lorsqu'on est adoubé, c'est le cas au Danemark, c'est le cas en Suède. C'est inimaginable chez nous. Chez nous, le chevalier, décrété par Napoléon, a été chevalier de la Légion d'honneur. Et puis, aux oubliettes, outre la rosette. Alors, est-ce que les druides sont encore parmi nous? L'idée druidique, comme je l'ai dit, oui, circule, parce qu'à mon avis, c'est une idée qui circule dans toutes les pensées. Est-ce qu'elle est praticable de nos jours? Enfin, je vous laisse la réponse. Là, on atteint des zones qui sont des zones d'idéologie personnelle, qu'elle soit politique, religieuse, etc. Maintenant, on ne peut pas ignorer qu'il existe un grand druide à Paris, qu'il existe un grand druide à Londres, qu'en 1717, à Londres, est né... je sais que vous avez une conférence cette année, ici, sur la franc-maçonnerie. Eh bien, à l'auberge de Loi et du Grill, en 1717, à Londres, a été créée la franc-maçonnerie. Trois des personnages qui se trouvaient lors de la signature des constitutions écrites par le pasteur Anderson n'ont eu qu'à traverser la cour et à se rendre dans le pub qui avait sa vitrine dans la rue adjacente derrière, et on a fondé, trois jours après, the Trade Order, dont l'ordre français, enfin l'un des huit ordres français du druide, dépend. Alors, dire que ces gens sont druides parce que descendants des druides, bon, ça relève de l'imaginaire, que ces gens aient constitué une société pour entretenir un esprit druidique, peut-être. Cela dit, dans les sites sur Internet, il y a quelques ordres druidiques dans lesquels je ne mettrai pas les pieds et qui rappellent malheureusement les exploitations pseudo-historique qu'en a fait Hitler au moment du décret de la race pure. On sait pertinemment que la société fondatrice des nazis et des Waffen-SS, société secrète, prétendait que l'origine de la civilisation celtique, c'est-à-dire l'origine l'origine de l'Occident, était née au Danube. Chose que d'ailleurs les historiens et les archéologues n'ont abandonné qu'il y a une trentaine d'années. Et certaines institutions continuent à s'appuyer sur ces vérités qui n'en sont plus. Lorsqu'on s'appuie sur des vérités qui n'en sont pas, on a sans doute des raisons, mais je ne sais pas si elles sont bonnes.
Des druides.
Alors, oui, ça c'est une question qui a fait l'objet d'une recherche, notamment de Christian-Joseph Guillaume-Noirc pendant 3 ans, à laquelle Françoise Leroux, une dame, ne voulait pas participer de peur que, signant l'ouvrage, on ait dit qu'il y a eu du parti pris. Alors il semble que non. Il semble qu'il y a eu des bardès. Il ne semble pas qu'il y ait eu de vat féminin. Et on peut quasi dire aujourd'hui qu'il n'existait pas de druide féminin. Par contre, il existait des reines. Il existait des chefs de famille féminins. Il existait des reines. Il existait des chefs de guerre célèbres qui étaient des femmes. Oui, ça tout à fait. Dans la société celtique, outre la fonction de druide, rien n'est réservé à l'homme, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la tradition de la filiation matrilinéaire était encore dans les esprits.
S'il vous plaît, moi je me demande si il y a un rapport entre le Dieu des chrétiens en trois personnes et le tripartisme qu'on trouve partout.
Alors, ma réponse, madame, est sans doute oui, parce que je suppose que les fondateurs de la religion chrétienne, lorsqu'ils sont sortis du sud de la Méditerranée, et qu'ils ont donc demandé à l'empereur romain, Constantin, de réunir le concile de Nicée en 363, je crois, hein, concile qui a fixé les dogmes de l'Église et qui a donc écrit celui de la Trinité. Ça a donc bien été écrit à Nicée, et je pense que ces gens étaient suffisamment clairvoyants pour inscrire les dogmes de la chrétienté dans la symbolique indo-européenne. Je pense que quand on crée quelque chose, on fait pour ce qu'il faut pour que ça marche. Sinon, la Trinité chrétienne n'est pas une triade, puisqu'il n'y a pas de personnage féminin dans la Trinité, mais vous savez que depuis 10 ans maintenant, les synodes d'évêques, tous les deux ans, puisque les grands synodes, c'est tous les 2 ans, il y a une communauté d'évêques qui repose la question de faut-il continuer à propager le dogme de l'Immaculée Conception, et ne faut-il pas qu'un des trois personnages de la chrétienté soit Marie ? Car il faudrait que peut-être l'Église, disent-ils, réagisse avant que les gens ne le créent eux-mêmes. Donc vous savez que le culte marial, hein, c'est d'ailleurs curieux, c'est que Marie et Anne, n'est-ce pas, est bien une construction aussi des philosophes du XVIIIe. On a bien choisi Marie, qui représente le personnage féminin souverain de toute la partie sud-est de la France, et Anne, la déesse. Donc, dont on a fait Sainte Anne, la mère de Marie d'ailleurs, qui était la déesse sept, et donc de tout l'ouest, l'autre moitié ouest de la France, donc la République, a mis Marianne comme déesse. C'est pas mal quand même. Hein, pour une République laïque, c'était pas mal.
Une question ? Alors, pour ma part, j'en ai une, parce que toute cette société, enfin, tout ce fonctionnement est basé par trois, mais quand on parle du druide et du roi, ils sont deux. Et il n'y a pas un troisième personnage qui rééquilibrerait ce pouvoir quasi universel du druide.
Eh bien non, parce que là, nous avons tout simplement le temporel et l'atemporel. Nous avons un personnage qui est élu, et l'autre qui n'est pas élu, l'autre qui il vient de l'université druidique. Donc il y en a un qui représente l'ensemble de l'idée celte et qui contrôle si le représentant du peuple, qui est le roi, car il n'est rien d'autre, il n'est pas roi d'une contrée, il est roi d'un certain nombre de gens qui l'ont élu. Donc il n'y a pas de bipolarité du pouvoir. Il y a simplement un pouvoir temporel de l'exécutif et un représentant de l'atemporel, c'est-à-dire ce qu'on fait ici doit répondre à la loi de ce qui se fait ailleurs. Et ce qui se fait ailleurs, eh bien, c'est ce qui est juste. Donc, si vous voulez, à partir du moment où un des dirigeants n'est que représentant de vertu et l'autre metteur en œuvre de valeurs, les valeurs c'est local et les vertus c'est quasi universel, il n'y a pas de bipolarité. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. C'est pas la tripolarité des trois pouvoirs dans la République.
Et je crois qu'en fait, c'est en cela que c'est un mystère. C'est-à-dire que se dire un seul personnage a pu maintenir un fonctionnement aussi longtemps avec un pouvoir invraisemblable.
Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas de pouvoir que ça a marché, d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le grand pouvoir que pouvait avoir ce personnage, c'était de répéter sans doute chaque jour, par les plus belles triades possibles chantées par le barde, que le village le canton ou la province n'était qu'une famille. Si vous dessinez une société dont les pieds sont la famille et que vous enlevez une famille, l'ensemble de la société boite. Si par contre vous faites de la société une pyramide, ce qui est l'exemple des nôtres, eh bien si vous enlevez le haut de la société, le personnage le plus important, peu importe, il suffit qu'il ait 51% des voix, l'édifice ne s'effondre pas. Demandez aux Belges comment on fait pour vivre pratiquement un an sans Premier ministre, ça marche. Demandez aux Anglais aujourd'hui comment on fait avec un Premier ministre qu'on attendait, et puis un Premier ministre assistant qui a carrément changé de côté, qui est passé de la gauche à la droite en 6 jours. Comment on fait pour prendre au sérieux les personnages élus? Il y a une autre notion, c'est celle du fait qu'on n'écrit pas. Demandez à un Anglais, si ça leur paraît pas bizarre, chez eux, qu'aucune loi ne soit écrite, qu'il n'y ait même pas de constitution. Demandez à un Anglais comment ça se fait que le Premier ministre est le leader du parti qui a gagné les élections générales. La seule réponse possible, c'est « Eh bien, c'est parce que ça fait 136 ans qu'on fait comme ça ». C'est écrit nulle part. Mais si vous voulez changer une pratique qui n'est écrite nulle part, eh bien, il faut prévenir les gens, faire rentrer ça dans les esprits, ça prend 3 générations. Si vous voulez changer une constitution écrite, il suffit d'une gomme et d'un crayon, et d'un vote à l'Assemblée. Imaginez que rien n'était écrit, que tout se faisait donc par oral, imaginez qu'une pratique, qu'on ait eu un jour envie de changer une pratique, supprimer une vertu dans l'État celte, depuis le nord de l'Écosse jusqu'au sud de la Hongrie, au sud de l'Espagne, imaginez le temps que ça prendrait. 2000 ans, tout compte fait, c'est court.
Et la déformation
Ça, c'est pas sûr.
Du langage.
C'est pas sûr, oui.
Est-ce pour cela que les Anglais ne sont pas en faveur d'une constitution européenne?
D'abord, monsieur, les Anglais qui sont restés bien plus bretons que le reste de l'Europe, d'ailleurs ils s'appellent comme ça, la Grande-Bretagne, sinon on s'appelle les Francs, on a oublié qu'on était gaulois, je vous l'ai dit tout à l'heure, eux ne peuvent pas, ils s'appellent bien la Grande-Bretagne. Et le fait que le droit chez eux soit coutumier est bien sûr une idée qui vient des Bretons. Le fait que le régionalisme en Angleterre soit quelque chose qui soit vécu de manière viscérale, c'est aussi évidemment un héritage breton, d'ailleurs que les Normands français, Guillaume le Conquérant a bien profité en installant un seigneur à la place du roi dans chacune des petites contrées celtes et en fourguant tout ce qu'il pouvait de celtes au nord et à l'ouest pour débarrasser le terrain. Hein, si on regarde, il ne reste plus que l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Entre deux, on est tranquille, mais l'esprit, on l'a conservé. Alors il faudrait d'abord que les Anglais, eh bien, se sentent européens. Si vous roulez comme moi souvent sur l'autoroute, aujourd'hui, vous voyez souvent des camions britanniques qui traversent jusqu'en Espagne et jusqu'en Turquie souvent, et vous voyez marqué dessus « Transport, UK, Royaume-Uni et Europe ». En France, on n'oserait pas. Chez eux, évidemment, on peut les excuser parce qu'ils sont insulaires, mais quand même. Ensuite, eh bien, avant la crise, que voulez-vous quand on est le banquier du monde, hein, que voulez-vous, quelle relation voulez-vous qu'on entretienne avec la zone euro? Toutes les bonnes relations qu'on veut, mais surtout pas remplacer la livre sterling qui sert encore à prêter de l'argent en Inde, au Pakistan, voire au Japon, par un euro qui est une monnaie naissante. Donc l'autre chose, l'autre versant de la chose, c'est est-ce que nous, Européens continentaux, pourrions nous offrir Londres comme banque européenne, alors qu'il passe par Londres chaque jour 2 fois le budget de l'ensemble des pays européens. Donc il y a des choses qui sont très différentes. Vous avez un pays d'entrepreneurs qui a toujours été un pays entrepreneur, un pays de protestants commerçants, qui est l'Angleterre. Et vous avez de l'autre côté une Europe où le chef d'entreprise est le grand bandit du coin. La vision des choses est complètement différente. Alors, la Constitution européenne, pour répondre à votre question, eh bien, souvenez-vous qu'on la voulait aussi un peu idéologique, puisqu'il fallait rajouter un aspect religieux. Du reste, on ne voit pas comment on pourrait constituer une entité humaine sans faire une référence à autre chose qu'au quotidien. Sinon, c'est perdu d'avance. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fera demain ? Il faut bien qu'il y ait une caractéristique stable, quelque part. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop bien faire ça. Et les Anglais, eux, ils sont très attachés. Chez eux, la reine s'occupe des problèmes d'éthique, et le Premier ministre et le gestionnaire et le comptable élu. Les rôles sont bien séparés. Ça rappelle quelque chose qui n'existe pas chez nous. Alors, le druide peut être tout à fait destitué par son voisin druide. Hein ? Je vous rappelle qu'il y a le druide de village. Au bout de trois villages, avec trois villages, il y a le druide du canton. Puis vous avez le druide de la province. Enfin bref, on ne connaît pas tous les noms, d'ailleurs, jusqu'à la tribu. Et ensuite, vous avez l'archidruide, visiblement, et l'archidruide de la tribu qui participe aux assemblées auquel j'ai fait allusion. Donc le druide est destitué par sa propre hiérarchie. Le druide ne survit pas à une faute. Il est tué par la hiérarchie. Lorsqu'un roi commet une faute, il y a une liste de fautes. Enfin bon, là on en est au point de vue source que dans ce qui nous reste de l'Irlande. Et là c'est post-médiéval. Donc, est-ce que c'est fiable ? On ne sait rien. En tout cas, on sait qu'il y a eu une liste de fautes que le roi ne devait pas faire. Un roi pouvait avoir plusieurs femmes, mais il n'était pas censé présenter ses hommages à une autre qu'aux femmes qui étaient les siennes, par exemple. Et le fait de se montrer adultère faisait que le roi passait au rang d'esclave. Donc, il perdait tous ses droits, y compris les droits familiaux. Je crois que ça rigolait pas chez eux.
Bien, Monsieur Frugier, s'il y a encore d'autres questions dans la salle, sinon... Eh bien alors, oui. Un grand bravo. Merci.